bienvenue au service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 11 juin 2014, plutôt jeudi 12 juin 2014, chez Robin Dorcil et Nathalie Barge en votre compagnie. Au sommaire ce soir, la Cour pénale internationale décide de juger l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo.
Cette décision n'est pas une décision sur la culpabilité de M. Laurent Gbagbo.
RDC, Rwanda, accalmie relative à la frontière après de nouveaux affrontements entre soldats des deux pays.
En Irak, les islamistes menacent de marcher sur Bagdad.
Lancement de la Coupe du monde de football au Brésil entre célébration et protestation.
Au pied d'immeubles de luxe, les gamins de la favela de Moinho tapent le ballon avec insouciance. Ici, le faste de la Coupe du monde sonne bien creux.
Nous aurons sur place notre envoyé spécial Nicolas Pino et la musique en fin d'émission avec Roger Munto. Pour l'instant, le journal.
La Cour pénale internationale a annoncé, sans préciser de date, qu'un procès aura lieu pour l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Il est accusé de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Cette décision met un terme à plus d'un an de procédures préliminaires. Écoutons le porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah.
Aujourd'hui, la chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale a confirmé à l'encontre de M. Laurent Gbagbo des charges de 4 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été perpétrés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre décembre 2010 et mars 2011. Il faudra expliquer que cette décision n'est pas une décision sur la culpabilité de M. Laurent Gbagbo. Cette décision signifie tout simplement que, selon les juges, le procureur dispose de suffisamment d'éléments de preuve qui justifieraient qu'un procès ait lieu afin que les juges de la chambre de première instance, qui est une chambre d'instance qui sera constituée prochainement, puissent décider, après un procès juste et équitable, si M. Laurent Gbagbo est coupable ou non. Il n'est pas possible de donner une date même approximative pour le début du procès en ce moment-là.
Fadi El Abdallah est le porte-parole de la Cour pénale internationale.
Deuxième journée d'affrontement armé entre les troupes de la RDC et du Rwanda, le long de la frontière commune. Les précisions de Bagassi Koura.
Il y a eu ce matin un bref échange de tirs entre les deux camps au nord de Goma, la capitale de la province congolaise du Nord Kivu. Les autorités congolaises accusent l'armée rwandaise d'avoir effectué une incursion hier en territoire congolais, d'avoir enlevé et tué un soldat congolais. Le Rwanda soutient de son côté que des soldats congolais ont fait irruption sur son territoire et ont ouvert le feu. Kinshasa parle de 2 soldats congolais tués alors que Kigali situe le bilan à 5 morts dans les rangs congolais. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, a expliqué que les forces rwandaises tentent délibérément de saper les efforts de son pays en vue d'améliorer la sécurité dans ses provinces orientales. Réagissant sur Twitter, la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, dit que son pays a jusqu'ici supporté un comportement indigne du leadership en RDC. La MONUSCO a appelé les deux parties à réduire la tension et à éviter de nouveaux actes de violence.
Le Premier ministre centrafricain André Nzapayeke a appelé hier ses compatriotes à respecter une trêve dans les violences intercommunautaires pendant la Coupe du monde de football qui débute aujourd'hui au Brésil et à l'occasion du mois du Ramadan qui commence fin juin.
Ne gâchons pas cette période pendant laquelle le monde entier est uni autour d'un seul roi qui s'appelle le football. Le 28 juin prochain démarrera le Ramadan. Une période pendant laquelle on s'entraide, on vient en aide aux plus faibles. Les heureux événements des mois de juin et de juillet nous offrent une occasion unique d'entrer réellement dans un processus durable de stabilisation de notre pays.
Le Premier ministre André Nzapayeke. En Sierra Leone, le gouvernement a décrété l'état d'urgence dans le district de Kailahun pour faire face à la propagation de l'épidémie de fièvre Ebola. Michel Joseph.
Le gouvernement de Freetown a annoncé hier la fermeture de toutes les écoles, cinémas, nightclubs, les foires foraines dans le district de Kailahun, dans l'est du pays. Aussi, tout véhicule et ses passagers devant entrer ou sortir de cette région seront soumis à des inspections à plusieurs barrages routiers. L'épidémie de fièvre Ebola a déjà fait 16 morts dans le pays. L'OMS avait signalé 30 cas confirmés et 7 morts à Calahoun. Dans la sous-région, l'Ebola a fait 226 morts en Guinée et 11 au Libéria. Cependant, la propagation a ralenti en Guinée et s'est arrêtée au Libéria. Les responsables de santé dans ces deux pays ont pris des mesures radicales pour isoler les malades. Des messages quotidiens ont été lancés sur les radios locales, appelant les populations à éviter tout contact direct avec les malades et les personnes décédées.
Le Nigeria, ses voisins et partenaires occidentaux, évaluent aujourd'hui à Londres le plan d'action de Paris destiné à neutraliser Boko Haram. Issa Napon.
La Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, le Nigeria et ses voisins font le point sur le plan adopté à Paris le mois dernier pour réduire la capacité de nuisance de Boko Haram. Le Cameroun a déjà déployé près de 3000 soldats à sa frontière nord avec le Nigeria. Depuis l'enlèvement des jeunes lycéennes à la mi-mai, Boko Haram poursuit ses attaques meurtrières, narguant une armée nigériane impuissante. Les partenaires occidentaux hésitent à coopérer à fond en raison de la corruption et des abus que commettent souvent les militaires nigérians. Un panel du Congrès américain a pointé du doigt hier les faiblesses de l'armée nigériane. Pour Robin Sanders, ancien ambassadeur, cette armée n'a ni l'expérience ni les moyens de faire face à des djihadistes venus du Mali ou de la Somalie, prêter main forte à Boko Haram.
Le ministre des Affaires étrangères ougandais a pris pour un an la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies. Sam Kutesa, qui était l'unique candidat, a été élu par acclamation, sans vote. Il a rejeté les critiques sur la législation répressive de l'Ouganda à l'égard des homosexuels.
Les trois principaux producteurs mondiaux de platine ont annoncé avoir trouvé un accord de principe avec le syndicat AMCU pour mettre un terme à la grève qui paralysie le secteur des mines sud-africaines depuis plus de 4 mois. Le syndicat va discuter de ses engagements avec ses membres pour obtenir un mandat lui permettant d'accepter les offres. L'objectif est de mettre fin à 21 semaines de grève.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, les islamistes menacent de marcher sur Bagdad, la capitale, après avoir déjà mis la main sur plusieurs autres villes clés dans leur tentative de chasser le gouvernement à dominante chiite. Jean-Roger Bion.
Les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, une émanation d'Al-Qaïda, ont dévoilé hier leur intention de prendre aussi la ville de Karbala, qui abrite l'un des sites les plus sacrés des musulmans chiites. Dans la foulée, les forces kurdes ont pris le contrôle de la ville de Kirkuk, dans le nord du pays. Les Kurdes avaient toujours manifesté le désir d'intégrer cette ville dans leur région autonome, contre la volonté du gouvernement central. Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunit aujourd'hui sur la situation en Irak. Il a publié avant cette réunion une déclaration critiquant vivement les islamistes pour l'occupation de Mossoul, la deuxième plus grande ville de l'Irak, passée dans leur giron en début de semaine. Les 15 ont déclaré qu'aucun acte de violence ou de terrorisme ne peut détourner le cheminement de l'Irak vers la paix et la démocratie. Les États-Unis réfléchissent également à l'aide qu'ils pourraient apporter à l'Irak pour contrer l'avancée des djihadistes qui contrôlent à ce jour les villes de Mossoul, Tikrit et Fallujah.
Le nouveau président de l'Ukraine, Petro Poroshenko, a discuté aujourd'hui de la situation dans l'est du pays avec son homologue russe Vladimir Poutine. Kiev et Moscou ont fait part de leur volonté d'apaiser les tensions suite à de violents combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes à Donetsk et Lugansk. Par ailleurs, Kiev affirme avoir repris le contrôle de 100 km de frontière avec la Russie, un endroit où les insurgés avaient opposé une résistance avec des chars. Monsieur Poroshenko s'est plaint auprès de Vladimir Poutine d'incursions en provenance de la Russie.
Incursion de chars, bien sûr. Un tribunal pakistanais a ordonné la levée de l'interdiction de voyage imposée à l'ancien président Pervez Musharraf. Le gouvernement a 15 jours pour se pourvoir en appel. L'ancien général, qui est accusé de trahison, a dit vouloir se rendre à Dubaï pour voir sa mère malade. Il s'est dit satisfait de la décision de la cour, a déclaré son avocat Farog Nassim. L'accusation contre Pervez Musharraf est intervenue en mars dernier.
Le gouvernement pakistanais condamne ce qu'il qualifie de deux frappes de drones par l'armée américaine, disant que c'est une violation de sa souveraineté. Ces frappes ont un impact négatif sur les efforts d'Islamabad visant à rétablir la paix et la stabilité dans la région, a déclaré le ministère des Affaires étrangères du Pakistan. Selon des habitants du Waziristan Nord, proche de l'Afghanistan, les frappes hier soir et ce matin ont fait au moins 16 morts.
Aux Philippines, des dizaines d'activistes ont manifesté aujourd'hui devant l'ambassade chinoise à Manille pour exiger de Pékin le retrait de ses revendications sur les zones en litige en mer de Chine méridionale. Aucun incident n'a été signalé. Voilà pour le journal. Il est 18h40 en temps universel, 14h40 ici à Washington. Chez Roubaix Dorcil et Nathalie Barge en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, notre magazine.
Les combats qui ont repris ce jeudi matin entre les soldats congolais et rwandais à la frontière entre les deux pays au nord de Goma se sont arrêtés vers la mi-journée. Comme d'habitude, les deux armées s'accusent mutuellement. Les écoles, les marchés, toutes les activités champêtres sont suspendues suite à ces affrontements. Le point avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigua.
Les militaires sont en alerte les deux côtés de la frontière de Kabuhanga dans le groupement de Buhumba, au nord de Goma. La population est en débandade, tel que l'explique l'administrateur intérimaire du territoire de Nyiragongo, Deo Mutumai.
La population ne devait que fuir vis-à-vis de cette invasion qui allait être faite au niveau de Kanyesheje. Maintenant, ils sont éparpillés ici et là dans les villages avoisinants. Ils n'ont aucune assistance, aucune. Alors, je suis en train de me demander si cette situation perdurera ou pas. Dans des pareilles situations, est-ce qu'on peut envoyer son fils ou son enfant à l'école? Ou on peut aller au champ récupérer un fagot de pommes de terre pour aller au marché?
La population revenue récemment des camps de déplacement après la guerre du M23 s'inquiète de cette énième guerre dans la contrée. Médiatrice Boussogi est habitante de Kabouye, non loin de la frontière où les affrontements se sont déroulés.
Nous sollicitons la paix auprès des autorités, qu'elles mettent fin à cette guerre. Nous ne voulons que la paix en République démocratique du Congo, car nous souffrons. Nous fuyons chaque jour. Les enfants souffrent et plusieurs femmes accouchent prématurément à cause de cette instabilité.
L'administrateur intérimaire de Nyiragongo sollicite l'appui des humanitaires pour assister cette population en déplacement vers les groupements voisins.
Nous demandons aux bienfaiteurs qui ont la bonne foi de venir en aide à la rescousse de cette population qui va errer ici dans le village avoisinant. Imaginez-vous une population qui vient fraîchement de la guerre. Il faut vivre comment?
Les autorités congolaises et rwandaises continuent à hausser les tons pour décrier cette situation, mais jusque maintenant, les vraies causes de ces affrontements ne sont pas encore connues. Goma, Primo Pascal Rudaigua pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
L'Afrique de l'Ouest a besoin d'une nouvelle approche dans la lutte contre les crimes liés au trafic de drogue. Tel est l'avis de la Commission ouest-africaine sur les drogues, qui a publié aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, un rapport appelant à décriminaliser l'usage des drogues. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Les pays ouest-africains se sont illustrés au cours de la décennie écoulée par des saisies records de drogue dans leurs aéroports et le long de leurs côtes, de même que l'arrestation des milliers de suspects. Pourtant, ce qui semble impressionnant sur papier ne traduit pas tout à fait la réalité. Ceux qui vont en prison sont des intermédiaires, alors que le trafic et la consommation de drogue comme l'héroïne ou la cocaïne n'ont cessé d'augmenter dans la région. Des laboratoires de production d'amphétamines y poussent comme des champignons. Pour compliquer les choses, le crime organisé et les groupes extrémistes se sont engouffrés dans ce créneau lucratif. Tout cela a conduit l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, initiateur de la Commission ouest-africaine sur les drogues, à établir le constat suivant. Les politiques actuelles contre la drogue ne fonctionnent pas. Nous devons avoir le courage de changer des politiques qui ne s'adaptent plus au contexte actuel. Entre 1990 et 2013, l'agence nigériane de lutte contre la drogue a saisi 178 tonnes de cocaïne. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a mis ces chiffres en perspective à Dakar.
Just one ton of cocaine
Juste une tonne de cocaïne atteignant l'Europe vaut plus que le budget de la sécurité de plusieurs pays, a-t-il dit, en soulignant que l'Afrique de l'Ouest n'est tout simplement pas équipée pour répondre à cette situation. L'un des risques est que l'argent de la drogue finance des élections et déstabilise des gouvernements. La Commission ouest-africaine sur les drogues propose une décriminalisation de la possession et de la consommation de petites quantités de drogue. Cela doit être traité comme un problème de santé publique à travers notamment l'ouverture de centres de désintoxication, souligne le rapport de la Commission, un net contraste avec l'approche dite prohibitionniste qui a caractérisé la guerre contre les drogues dans les Amériques et qui, de l'avis de certains experts, a échoué. La violence s'est intensifiée sans pour autant réduire le trafic de drogue. L'Afrique a une chance d'éviter ces erreurs, estime la Commission ouest-africaine sur les drogues.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Fayda à Kaolack.
C'est aujourd'hui la journée mondiale contre le travail des enfants. Il y a des progrès selon l'Organisation internationale du travail, mais il reste encore beaucoup à faire. Les détails avec Lionel Gaïma.
Selon l'OIT, il y a eu progrès car le nombre d'enfants contraints de travailler a diminué d'un tiers depuis 2000. Mais ils sont encore près de 170 millions à travailler dans le monde. Furio Rosati, un expert du travail des enfants à l'OIT, dit que l'opinion publique est de plus en plus sensible aux dangers et aux risques encourus par les enfants contraints de travailler, notamment dans l'agriculture, l'exploitation minière et les travaux domestiques. La protection sociale est un élément très important parce que l'un des facteurs qui pousse les enfants à travailler est la vulnérabilité des ménages, soit la misère ou l'exposition à des chocs négatifs. Donc, si quelqu'un dans le ménage devient chômeur ou est malade et ne peut plus travailler, les enfants sont bien sûr exposés au risque de travailler pour eux-mêmes et leur famille. Selon l'OIT, l'Afrique subsaharienne a le taux le plus élevé car un enfant sur cinq est contraint de travailler, mais la plupart des enfants travailleurs sont dans la région Asie-Pacifique. La plus forte réduction du travail des enfants est en Amérique latine et dans les Caraïbes où des programmes de transfert de fonds pour les familles sont mis en œuvre. Les prestations familiales combinées avec l'accès à l'éducation et aux services de santé se sont montrées efficaces dans la lutte contre la pauvreté. Très peu de pays en Afrique ont des systèmes de protection sociale, mais les programmes pilotes sont en cours dans certains pays. Le système social en Afrique du Sud a eu un bon effet sur les enfants. Furio Rosati, un expert de l'OIT. Ils ont introduit une pension pour tout le monde. Mais là, il a été démontré que les enfants ont beaucoup bénéficié de l'apport de ce système de retraite protégeant les personnes âgées vulnérables. Le travail des enfants a été considérablement réduit et la fréquentation scolaire a beaucoup augmenté. Selon l'OIT, les pays doivent redoubler d'efforts aussi dans la lutte contre la prostitution et la pornographie ciblant les enfants, un fléau qui ne sera pas éradiqué en 2016 comme le souhaitait l'ONU.
Bonjour, c'est Nicolas Pinot. Retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde, les résultats, les coulisses et les à-côtés de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com et notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Dans un peu plus d'une heure, l'attente va prendre fin. La Coupe du Monde va commencer au Brésil, plus précisément à São Paulo. Le journal de la Coupe du Monde, tous les jours sur nos antennes avec Bega Sicura et notre envoyé spécial, Nicolas Pinot. Alors, Bagassi ?
Oui, bonsoir, Chérubin, bonsoir à tous.
Ça y est.
Oui, on est en plein là-dedans. La cérémonie d'ouverture a commencé il y a quelques instants. Donc, cette cérémonie pour la 20e Coupe du Monde au pays du roi Pelé, au stade Arena Corinthians de Sao Paulo. Mais sur cette terre du football, la fête semble quelque peu éclipsée par des manifs à Sao Paulo. La police a dû user des gaz lacrymogènes pour repousser des dizaines de manifestants. Nicolas Pinot, notre envoyé spécial à Sao Paulo, va revenir dans les heures qui viennent sur la manifestation. Et de nombreux Brésiliens ne sont pas contents. Le pays a investi plus d'une dizaine de milliards de dollars pour organiser ces Jeux. Et comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Nicolas Pinault, dans des quartiers de Sao Paulo, beaucoup se disent abandonnés.
Au pied d'immeubles de luxe, les gamins de la favela de Moinho tapent le ballon avec insouciance. Ici, le faste de la Coupe du Monde sonne bien creux. Pas de sanitaire, ni eau courante, la débrouille s'apprend dès le plus jeune âge. Sur place, on n'a pas vu les milliards investis par le gouvernement brésilien pour accueillir le mondial. Avec sa casquette et sa chemise en jean, Gerson Ribeira sirote sa bière.
Je ne ressens rien pour cette coupe. Le Brésil a mis de l'argent pour le mondial, mais rien pour l'éducation. Je pense que ce n'est pas juste. Ils ont investi des milliards pour la Coupe du Monde et rien pour la santé ou l'éducation.
Les rares à avoir une télévision regarderont ce jeudi le match d'ouverture Brésil-Croatie. Paradoxe d'un mondial si proche et si lointain pour les habitants de Moinho. La favela existe depuis des décennies, les problèmes aussi. Les habitants sont menacés d'expulsion par la mairie, mais ont décidé de se battre. Alessandra Cunha a grandi dans Moinho. Elle veut aujourd'hui aider les plus jeunes à s'en sortir.
Il y a des gens ici et ils doivent s'occuper de nous. Ce n'est pas juste un espace. Ce sont des gens qui vivent et qui ont besoin d'eau, d'électricité et de toilettes. Il y a beaucoup de résidents qui n'ont même pas de toilettes chez eux. C'est un comble alors que nous sommes à Sao Paulo, plus grande ville d'Amérique latine.
Sur le terrain, les enfants s'amusent. La roue tourne comme un ballon, espère-t-il. Au pays du football roi, chacun rêve de devenir professionnel et de laisser la misère au vestiaire. À 20 ans, Jojoel Santana y croit toujours.
Pour moi, le football, c'est comme une seconde vie. Le football, c'est comme un mariage. Je dois être fidèle, peu importe l'heure ou l'endroit. J'ai un problème au genou, mais je n'arrête jamais de jouer. Je rêve toujours de devenir professionnel.
À l'ombre du mondial, les rêves n'ont pas de prix. Sur un air de samba dans la favela, les gamins de Moinho affichent un large sourire qui vaut tous les trophées du monde. Nicolas Pinault, Sao Paulo, pour la Voix de l'Amérique.
Et nous essayons d'établir le contact avec Nicolas Pinault, qui, nous l'espérons, sera avec nous en direct avant la fin de ce segment Bagassi. Il faut dire qu'en match d'ouverture, le Brésil affronte l'équipe de Croatie.
Oui, les Brésiliens partent favoris, bien sûr, mais comme nous le rappelle le journal L'Équipe, la Croatie est l'un des meilleurs milieux du monde. Mais la Seleção fait face à une très grosse pression. Cette pression sera-t-elle un handicap? Eh bien, j'ai posé la question à notre confrère, à l'entraîneur sénégalais Bokounta Cissé.
Bon, si on connaît bien les Brésiliens, il n'y a que le rôle positif, parce que les Brésiliens se défendent face au football. Ils exercent une pression positive sur le groupe. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Je pense que le Brésil est une équipe d'une grande machine de football. Donc, l'équipe sera supportée par son public. Quelles que soient les tensions qui existent actuellement dans ce pays-là, je pense que c'est un public qui agit positivement sur son groupe. Donc, une pression positive.
Ouais.
Je ne peux pas penser autrement.
Voilà, on ne peut pas penser autrement, c'est-à-dire que la défaite du Brésil est inimaginable pour de nombreux Brésiliens. Parole de Bokounta Cissé, l'entraîneur des jeunes au Sénégal. Et puis, Chérubin, rappelons que la Croatie faisait partie autrefois de la Yougoslavie, un pays que vous connaissez certainement, qui a écrasé un certain Zaïre 9-0. C'était lors de la Coupe du Monde 1974 en Allemagne.
C'était à Munich, l'unique Coupe du Monde à laquelle la sélection de mon pays d'origine, Haïti, n'est jamais participée. Les Jeux sont faits...
Vous aviez quel âge?
Alors ça, c'est un secret, Bagassi. Et selon une étude de statisticiens du football, la Coupe du Monde s'achèvera par un nouveau sacre de l'Espagne qui empochera sa deuxième étoile consécutive en battant en finale le Brésil. Moi, je n'y crois pas.
Ah ben, si on s'en tenait qu'à eux, on n'allait plus jouer ce tournoi. Hein. Donc, pour eux, les Jeux sont faits. Et selon ces statisticiens, c'est bien l'Espagne qui va remporter la Coupe du Monde lors de la finale qui aura lieu devant le Brésil. C'est donc la conclusion de ces chercheurs de l'Observatoire du football à Neuchâtel. C'est en Suisse. Et qui dit, ces chercheurs donc dissèquent le milieu du ballon rond sous toutes les coupures depuis une dizaine d'années. Selon l'agence France Presse, ils ont évalué le potentiel des 32 équipes du mondial. Ils ont donc déterminé que le Nigeria sera la seule équipe africaine en huitième de finale. C'est quand même dur, hein?
Oui. Et maintenant, le coup de sifflet de Jules Valentin Gouin. Il est Bagassi, notre consultant football.
Oui, et dans ce coup de sifflet, notre consultant nous parle de, justement de cette opposition entre le Brésil et la Croatie.
Bonsoir. Ça y est, c'est parti. La Coupe du Monde 2014 débute ce jour dans l'enceinte du Monumental Stade de São Paulo au Brésil par un match d'ouverture très intéressant entre le pays organisateur et la Croatie. Le match est prometteur car ce sont deux traditions de football spectaculaire qui ouvrent le bal ce soir. En effet, si je ne m'abuse, le pays du roi Pelé affronte l'héritière la plus performante de l'ex-Yougoslavie depuis l'éclatement de ce haut lieu du football mondial à la fin des années 80. Les anciens se souviennent que la Yougoslavie, ce roi sans couronne, était néanmoins le plus grand pourvoyeur du football international en talent hors normes devant l'Argentine et le Brésil. Le match contre ce dernier constituait des sommets spectaculaires que personne ne voulait manquer. À ce titre qui nous se rappelle le merveilleux Brésil-Yougoslavie de 1970 au Mexique. C'est donc en regardant dans le rétroviseur de l'histoire que les plus jeunes trouveront l'explication à la qualité du spectacle que doit forcément nous offrir le Brésil-Croatie de ce soir. Un match piège parfait pour les Cariocas, trop rapidement propulsés favoris. Tout devrait y passer. Le rythme, la qualité collective, la créativité et les gestes techniques les plus fous que les joueurs de la trempe du Brésilien Neymar ou du Croate Modric ne vont pas se priver de nous montrer. Alors, osons espérer que, contrairement à la stérilité traditionnelle des matchs d'ouverture, le temps d'une Coupe du Monde que chacun veut exceptionnelle va être le bon au pays de la samba et de la fiesta. À demain.
Voilà, à demain, Jules. Et rappelons que demain, justement, la première équipe africaine entre en lice. Il s'agit du Cameroun qui affronte le Mexique. Un pronostic, Chérubin?
Le Mexique est une très bonne équipe, mais je suis avec le Cameroun.
Alors, j'ai demandé à l'un de nos spécialistes si le grand gabarit des Camerounais était un atout. Et il n'était pas d'avis. Il pense que c'est plutôt un handicap parce que les joueurs mexicains plus courts peuvent mener certaines actions que les grands gabarits ne peuvent pas faire. Donc, c'est tout pour cette édition consacrée à la Coupe du Monde. Au micro, Bagassi Koura, merci de nous avoir suivis.
Alors, Nathalie Barge, on termine sur cette note. C'est la chanson officielle de la Coupe du Monde.
Oui, je crois que c'est Jennifer Lopez et Claudia Leite, n'est-ce pas? C'est
voilà,
ça
artiste brésilienne et artiste américaine. Une chanson assez entraînante. On va l'écouter presque chaque jour pendant le Mondial.
Ben oui, surtout qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, hein, puisque c'est l'ouverture de la Coupe du Monde du Brésil, n'est-ce pas?
C'est le grand départ. Cette édition a été mise en onde par Lionel Gaïma, avec l'assistance technique de Nelson Lopez, qui malheureusement n'est pas un fan du Brésil. À la présentation, chez Rubin Dorsil
et Nathalie Barge.
On se retrouve dans une demi-heure.
Say Je m'en